Marianne, chapitre 18. Enfin, se dit Marianne en reprenant au pas le chemin de sa demeure. Il me semble que je vois clair à présent. J'ai bien cru qu'il ne m'aimerait jamais. Ne l'a-t-il pas pensé et écrit que le mariage était un tombeau et que jamais il ne se contenterait d'un bonheur paisible et sûr? Pourtant, il a du chagrin en me voyant hésiter. Quel singulier caractère! Et comme il doute de tout! Marianne rentra et s'enferma dans sa chambre, en proie à une agitation qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle était très sincère vis-à-vis d'elle-même. Elle reconnut que sa rencontre avec Philippe l'avait un peu troublée, et qu'en se laissant aller à l'instinct, elle pouvait ressentir quelque plaisir à se voir appréciée par cet inconnu. Ces gens décidés ne se font-ils pas connaître tout de suite? Pensait-elle. Et ne faut-il pas leur savoir gré de vous épargner les tourments de l'hésitation? Pierre a du respect pour moi, c'est flatteur et c'est bon. Mais n'en a-t-il pas trop? Veut-il donc que je fasse les avances? Est-ce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que l'homme ait l'initiative? Marianne se sentait poussée et comme réclamée par un penchant très logique et très vrai, celui qui porte le sexe faible à estimer avant tout, dans le sexe fort, les résolutions qui caractérisent la virilité. Elle avait tressailli d'aise lorsque Pierre avait saisi avec autorité la bride de son cheval pour la retenir. Mais Philippe n'eut pas lâché prise, elle le sentait bien, et Pierre n'avait eu qu'une velléité de courage. Pourtant, c'est deux larmes qu'il n'avait pu retenir. Philippe ne les eut pas versées. Peut-être que sa timidité est la conséquence forcée de la mienne, se dit encore Marianne. Jamais je n'ai su dire un mot, ni même avoir un regard pour lui faire deviner que je voudrais son amour. Je suis trop fière, il me croit indifférente ou stupide. Est-ce qu'il m'aimerait franchement si j'étais coquette et un peu hardie? Qui sait? Pierre reprenait de son côté le chemin de Dolmort sans songer davantage à surveiller Philippe. Ses larmes coulaient lentement et sans qu'il s'en aperçût. « Ma destinée s'accomplit, » se disait-il. « Voilà que, pour couronner l'histoire de mes aberrations, j'aime encore une fois l'impossible. Tant que Marianne a été libre et m'a paru indifférente, je n'ai pas songé à elle. Le jour où un rival qui a toutes les chances contre moi se présente, je me sens jaloux et désespéré. Je suis vraiment fou. » Et avec cela, idiot, car c'est au moment où je devrais parler que je sens plus que jamais que demander l'amour m'est impossible. Il trouva sa mère levée et préparant le déjeuner. Il aimait mieux se plaindre de Marianne que de n'en pas parler. Il raconta l'entrevue et ajouta. Marianne est coquette, je t'assure, et cruellement railleuse. Elle voulait m'amener à lui dire que j'étais amoureux d'elle. Elle avait besoin de ce triomphe avant de se venger. Ce soir ou demain, elle eût ri de ma sottise avec son futur conjoint. Madame André essaya en vain de le dissuader. Elle s'avança même jusqu'à jurer que la petite voisine n'avait jamais aimé que lui, et que c'était lui, lui seul qu'elle attendait depuis 5 ou 6 ans. Mais, comme elle ne pouvait affirmer qu'elle en eût acquis la preuve dans les confidences de Marianne, Pierre repoussa l'espérance comme un leurre des plus dangereux. Il ne voulut pas avouer que son cœur s'était pris, et sa mère, impatientée, finit par lui dire « Eh bien, prenons-en notre parti, et si ce mariage nous chagrine ou nous contrarie, disons-nous que nous n'avons pas voulu l'empêcher. » Philippe arriva à l'heure du déjeuner et y fit honneur. Il raconta ensuite à Pierre qu'il avait fait beaucoup de pas inutiles pour trouver Valida, qu'il avait failli déposer sa couronne de chèvrefeuille à la porte de Morsan, mais qu'il s'était informé à temps du nom de la localité et de celui des propriétaires du manoir, qu'il avait été plus loin et n'avait trouvé qu'un désert de landes marécageuses, qu'enfin il était revenu sur ses pas et s'était approché vers les 8 heures du matin d'une métairie fort laide qu'il allait encore quitter sans s'y arrêter, lorsqu'il avait vu dans un pré un petit cheval au vert. Il avait reconnu ce petit animal pour Mademoiselle Suzon. Il avait pénétré dans le pré à travers les épines, et après avoir passé la couronne autour du cou de la maigre jument, il revenait triomphant, jugeant son entreprise réussie et sa nuit bien employée. Pierre lui répondit à peine, et pour se débarrasser de lui, il lui conseilla d'aller se jeter sur son lit, vu que le manque de sommeil pouvait paralyser ses moyens de séduction. Philippe jura qu'il était homme à passer 3 nuits sans dormir et sans qu'il y parût, ce qui ne l'empêcha pas d'aller s'étendre incognito sur la mousse dans le creux des roches et d'y savourer les douceurs du repos jusque vers midi. À midi sonnant, la patache et la jument du domaine de Valida se trouvèrent à la porte de Dolmor. Madame André avait mis sa robe de soie puce encore fraîche, bien qu'elle eût 10 ans de service. Philippe endossa un habit noir de la meilleure coupe et mit une cravate éblouissante. André ne changea rien à son costume des dimanches. Madame André monta dans la patache, que l'époux de Marichette se disposait à mener au pas en marchant à côté de la jument. Philippe, assis à côté de Madame André, prétendit conduire, mais il ne réussit jamais à prendre le trot, allure inusitée pour une jument poulinière du pays. André avait pris les devants à pied. Il arriva le premier à Valida, mais il attendit pour se présenter que la patache l'eût rejoint. Le lourd véhicule, trouvant la barrière ouverte, fit son entrée majestueuse et lente, et s'arrêta entre la porte du logis et le tas de fumier. Philippe trouva son futur manoir un peu trop rustique et se promit de changer tout ça, pour peu qu'il y eût des bâtiments convenables. Malheureusement, il n'y en avait pas, et Marianne, qui attendait ses hôtes au seuil de la chambre des métayers, les y fit entrer, ni plus ni moins que s'ils eussent été de simples paysans. Marianne avait pourtant son petit sanctuaire très coquet de l'autre côté de la cloison, mais elle n'était pas disposée encore à y admettre un étranger, et Pierre lui sut gré de ne pas en accorder l'entrée si vite à son nouvel hôte. Marianne, après avoir embrassé Madame André, tendu la main à son parrain et salué sans timidité le convive qu'on lui présentait, emmena Madame André dans sa chambre afin qu'elle se débarrassât de son châle et de son voile noir. En ce temps-là, les bourgeoises pauvres ne portaient guère de chapeau. Elles sortaient avec un voile sur leur bonnet de linge blanc. Chapitre 19. Pierre s'amusait intérieurement de la déconvenue de Philippe, que celui-ci dissimulait de son mieux sous un air enjoué. Il ne se doutait pas de la simplicité, je dirais même de la rusticité des habitudes de nos propriétaires campagnards en ce pays et à cette époque. Marianne n'avait rien changé d'apparent à ses habitudes d'enfance. Longtemps, elle n'avait pas eu d'autre salon que cette grande pièce à solives enfumées d'où pendaient des grappes d'oignons dorés, et au centre de laquelle, en guise de lustre, se balançait la cage à claire-voie où l'on met les fromages. Les paysans sont très propres dans cette région. Si les poules et les canards pénètrent à tout moment dans l'intérieur, la ménagère, armée du balai, est incessamment sur pied pour les chasser et faire disparaître les traces de leur passage. Les lits et tous les meubles sont frottés et luisants. La vaisselle brille de netteté sur le dressoir. Mais ces grands lits de serge jaune, fanés jusqu'à avoir pris la teinte feuille morte, la noire cheminée à crémaillère encombrée de peaux, de chats et d'enfants, le dallage inégal et crevassé, la petitesse de l'unique fenêtre, l'écrasement d'un plafond garni de provisions et d'ustensiles qu'il faut éviter en marchant, tout cela n'offrait pas aux jeunes Parisiens l'idée d'un bien-être suffisant. Et ils ne pouvaient même pas rêver un atelier de peinture dans ce local sans lumière et sans élévation. Comme il y avait de la finesse sous sa pétulance, il se garda bien de dire à André un mot qui exprima son déplaisir. Il se contenta de demander si c'était là qu'on allait dîner. « Je le présume, » répondit Pierre. « Mademoiselle Chevreuse a bien quelque part un petit appartement, mais depuis qu'elle l'a fait arranger, je n'y suis pas entrée, et j'ignore si elle a une salle à manger. Je crois qu'elle vit sur un pied d'égalité complète avec ses métayers et qu'elle prend ses repas avec eux. »
« Alors, nous allons manger avec tout le personnel de la ferme ? » ?»«
Eh bien, c'est charmant. Et voilà ce que j'appelle la vraie vie de campagne. »
En ce moment, la maréchette vint dire à Pierre que si ces messieurs souhaitaient faire un tour de jardin, ils y trouveraient de quoi s'asseoir, et que la demoiselle y était sans doute déjà avec Madame André.
« Le jardin est derrière la maison, » ajouta-t-elle. « Mais si vous voulez passer par le logis à la demoiselle, vous n'aurez pas à faire le tour des bâtiments. »«
Nous aimons mieux faire le tour, » répondit Pierre, qui était pourtant très curieux de pénétrer chez Marianne, mais qui ne se souciait pas de montrer le chemin à son compagnon. Ils passèrent derrière la métairie et entrèrent dans le jardin de Marianne, où ils trouvèrent la table dressée et le couvert mis dans le petit parterre abrité qui s'étendait devant l'appartement. La porte vitrée était ouverte, toute grande, et sans entrer, car il n'y avait personne, ils virent un petit salon en vieille boiserie, peint en blanc et verni à neuf. Le meuble Louis XV était assorti à la boiserie. La glace, enguirlandée de ces jolis festons de bois découpés qu'on imite tant bien que mal aujourd'hui, avait à cette époque quelque chose de très suranné, car la mode, surtout en province, les proscrivait absolument. Ce n'en était pas moins coquet et charmant, ces guirlandes d'un blanc poli pendant jusque sur la glace transparente, que des gerbes véritables, placées devant, ne laissaient voir que comme un point brillant ouvrant sur l'espace. Pierre, avec un effort de mémoire, reconnut cette pièce et ce mobilier que, du temps du père Chevreuse, il avait vu, sale, écorné, sentant la gêne ou l'apathie. Marianne avait eu le bon goût d'apprécier ces vestiges de l'autre siècle et de les faire restaurer. Le pavé était recouvert d'un tapis à teintes douces, aucun objet sur les boiseries, mais partout des fleurs splendides s'élevant en buissons, presque en arbre, sur les encoignures et sur la console qui faisait face à la cheminée.
« Voilà qui est exquis !» s'écria Philippe. « Je savais bien qu'elle était artiste. »«
Comment le saviez-vous ? » lui dit Pierre, qui au fond était plus surpris que lui.
« Mon cher, ça se voit dans la femme, au premier aspect, sans pouvoir se définir. Marianne a le type duchesse. »
« Qu'est-ce que le type duchesse ? Je ne suis pas comme vous, je n'ai pas beaucoup vu le monde. »«
Est-ce pour ça que vous êtes aujourd'hui d'une humeur massacrante ? » dit Philippe en riant.
Chapitre 20. L'apparition de Marianne et de Madame André mit fin à ce dialogue. Elles passaient dans le jardin et on s'empressa de les rejoindre. Pierre déclara à sa filleule qu'ayant été exclu si longtemps de son sanctuaire, il ne le connaissait plus et voulait voir les changements qu'elle y avait faits.
« Vous n'en trouverez aucun, » répondit-elle. « Mon père aimait son jardin, il l'avait planté lui-même. Je n'ai rien voulu détruire. Et puis les métayers ont droit à leur part de légumes. » Le temps s'est chargé de faire mourir beaucoup d'arbres, et la gelée a emporté beaucoup d'arbustes. Il en a poussé de plus rustiques, et le fond de l'enclos, au bout du verger,
dont mon père avait voulu faire une pépinière, est devenu tout à fait sauvage.
« Je veux voir ça !» dit Pierre. « Je me souviens que c'était très mouillé, et j'avais prédit à ton père que ces arbres d'ornement n'y réussiraient pas. »«
Allez-y seul, parrain, » répondit Marianne. « C'est un peu humide et raboteux pour Madame André. »
Pierre traversa le verger et pénétra dans l'ancienne pépinière, qui occupait une langue de terrain fermée de haies très élevées et que traversait le ruisseau. Il y fut saisi d'une sorte de ravissement. Marianne avait laissé la nature faire tous les frais de ce petit parc naturel. L'herbe y avait poussé haute et drue en certains endroits, courte et fleurie en d'autres, selon le caprice des nombreux filets d'eau qui se détachaient du ruisseau pour y rentrer après de paresseux détours dans les déchirures du sol. Ce sol, léger, noir et mélangé de sable fin, était particulièrement propice à la flore du pays, et toutes les plantes rustiques s'y étaient donné rendez-vous. Les iris foisonnaient dans l'eau avec les nymphéas blancs et jaunes. L'aubépine et le sureau avaient poussé en arbres luxuriants. Toutes les orchidées, si variées du pays, diapraient les gazons avec mille autres fleurs charmantes. Les myosotis de diverses espèces, les silènes découpées, les parnassies, les jacinthes sauvages, quelques-unes blanches, toutes adorablement parfumées. Les renflements du terrain, étant plus secs, avaient gardé leurs bruyères roses et leurs genêts rampants, que perçaient de leurs blanches étoiles, roses dessous, les anémones sylvestres. Il n'y avait pas de sentier. Tout éboulement de sable servait de passage pour se diriger dans ce labyrinthe, où ne paissait jamais aucun bétail, et que Marianne seule fréquentait. Quelques roches y servaient de siège à sa rêverie, et des touffes d'aunes et de hêtres élancés y donnaient assez d'ombre, sans étouffer la végétation basse.
« Marianne aime donc la nature !» se disait Pierre, enivré d'une joie intérieure. Elle la comprend, elle la sent comme moi. Et elle ne le dit pas, elle n'en parle jamais. Je ne m'en doutais pas.
« Eh bien, mon parrain, lui dit-elle en paraissant tout à coup à ses côtés,
vous voyez que je ne suis pas une bonne jardinière et que vous ne changeriez pas votre nouveau jardin que vous trouvez trop jeune pour ce vieux marécage abandonné.
« Ce vieux marécage serait un paradis pour moi. Sais-tu qu'un botaniste y ferait un herbier presque complet de la flore du pays ? J'y ai éprouvé plus d'une surprise, car j'ai trouvé les espèces les plus rares, et qu'il m'a fallu parfois aller chercher bien loin. Tiens, par exemple, cette élode des marais qui est là sous nos pieds.
Ah ! Celle-là vient des pierres de Crevant, elle a bien voulu pousser ici.
Tu as donc été quelquefois à Crevant ?
« Souvent, c'est un jardin naturel très riche. C'est de là que j'ai rapporté cette jolie jacinthe blanche. »«
Ce n'est pas une jacinthe, c'est la méniante, beaucoup plus belle et plus rare. »«
Je ne sais pas les noms des plantes, mon parrain, mais je connais bien leur figure et leur odeur. Toutes les fois que je me promène, je recueille des graines, des oignons ou de jeunes plantes. Je les apporte ici, où presque tout réussit. »
« Alors je comprends ce que je vois. Ce petit Éden est ton ouvrage ?»«
En partie, mais je ne me vante pas d'acclimater volontairement toutes ces folles herbes. On me tiendrait pour folle. »«
Tu aurais bien pu me le dire à moi, qui ai la même manie. »«
Oh, vous êtes savant, et il est naturel que vous soyez curieux de tous ces échantillons. Moi qui ne sais rien, je n'ai pas d'excuses. »
Tu aurais besoin d'excuses pour aimer les fleurs ?
Ah, Marianne, c'est d'autant plus charmant de ta part que tu ne sais pas tous les secrets de leur beauté. Si tu les examinais attentivement...
Oh, pour cela, je les examine, et sans savoir un mot de science, je pourrais vous dire leurs rapports et leurs différences. Elles sont si jolies et si variées. J'admire encore plus les belles fleurs étrangères que vous avez dans votre jardin. Mais mon amitié n'est pas pour elle. nos petites sauvages sont plus à mon gré et à ma portée.
Tu les regardes donc dans tes promenades? Je m'imaginais que tu ne voyais rien, que tu faisais courir ta Suzon pour le plaisir de te sentir emporté vite, qu'enfin tu aimais la campagne pour son libre espace et le mouvement pour lui-même.
Ah, c'est certainement un grand plaisir d'aller vite, de fendre le vent et de voler sur la bruyère comme un lièvre. Mais c'en est un plus grand de tout voir en allant au pas et de s'arrêter devant ce qui vous plaît ou vous étonne.
J'aime l'un et l'autre, ce que je connais et ce que je ne connais pas. Je voudrais ne rien apprendre et tout savoir. Ou encore mieux, je voudrais tout savoir pour l'oublier et le retrouver quand il me plairait, car il y a un grand plaisir à vouloir deviner. Et si je savais tout, j'en serais privée.
Reste comme tu es, Marianne. Tu es, je le vois, de ces natures qui possèdent le vrai sans avoir besoin de démonstration. Et dis-moi encore, puisque tu es en train de te révéler aujourd'hui.
C'est assez, mon parrain. Je crains que votre mère, que j'ai quittée pour vous rejoindre, ne s'ennuie sans moi. Retournons auprès d'elle.